écoutez France Culture.
Voyons voir un peu les dernières nouvelles. Valet de chambre, 42 ans, 1200 francs par mois. Il va un petit peu fort.
It's for you, Mr. Stevens.
Thank you. Stevens, how do you do?
My lord.
Very good man here, your son. He does the house great service. I don't know what we'd do without him.
Certainly, monsieur. Merci, monsieur le comte.
Jean de Maison.
Madame Affamée?
Bonne cuisinière, 35 ans, ne pouvant pas quitter Paris. Écrire A, B, 11 bis, rue Marbeau. C'est Augustine, ça, ça y est. Elle s'en va encore d'où qu'elle vient d'entrer. Elle peut rester nulle part, celle-là.
Bon appétit, monsieur.
Notre nouvelle bonne.
Je suis bonne. Bonne à tout faire.
Une émission de Marion Thibat, réalisée par Christine Robert. Suzanne Asquette, là nous sommes dans une avenue parisienne extrêmement tranquille, une avenue privée.
Très, très tranquille, très bien habitée.
En plein 16e arrondissement.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est un bel immeuble, là, vous habitez ici.
Ah, très, très, très. Oui. J'habite ici depuis plus de 25 ans. Une chambre de bonne au 7e étage.
Sans ascenseur.
Sans ascenseur, bien sûr.
Vous continuez à monter les escaliers, vous avez quel âge maintenant?
J'ai 72 ans. Mais ça va, je les domine, je les connais depuis longtemps, les escaliers.
C'est un choix de vivre dans une chambre de bonne ou
bien... Ah non, c'est un choix lié à ma condition.
Aujourd'hui, la condition de la bonne à tout faire. Vous allez nous accueillir dans votre chambre de bonne?
Oui, oui, je pense que j'ai le droit.
Chambre 27.
Voilà, oui.
Ça, c'est l'escalier de service.
Ça, c'est le service encore, ça. Ça, c'est la loge de la gardienne. On s'en va par là.
Là, les portes, à chaque étage, ce sont les portes de service des appartements.
Oui, c'est les portes de... Du côté cuisine. Dans les appartements bourgeois, il y a la partie avec l'office et la cuisine qui était à côté. Et ça, c'est toujours un peu comme ça. Pardon. Descendez, monsieur.
Bonjour.
Bonjour.
L'escalier est raide, hein, quand même.
Oui, enfin, il est plutôt raide, oui. Enfin, je le connais bien.
Nous n'en sommes qu'au troisième.
Comment?
Nous n'en sommes qu'au troisième.
Ah oui, oui.
L'envers du décor, nos miroirs déformants, nos soupapes, notre honte, notre lit, disait Genet à propos des bonnes. Une façon de voir une part maudite, inconsciente, refoulée de l'humanité, vision noire, contemporaine, qui dénonce la condition domestique. Au XVIIIe siècle, les domestiques représentaient 16 à 17% de la population. Femmes de chambre, nurses, gouvernantes, valets de pied, valets de chambre, majordomes, gens de maison, au service des gens du monde. Au début du XXe, la bonne à tout faire a accédé à un statut symbolique dans l'imaginaire bourgeois, au point qu'il y a eu pénurie. Des milliers de Bretonnes sont montées à Paris pour entrer en condition. C'est bécassine, chez la marquise de Grantaire. Ni réfrigérateur, ni machine à laver, ni aspirateur, ni répondeur. Les maisons d'alors demandaient beaucoup d'entretien.
En général, vous faites une petite pause au milieu de la montée?
Oui, de temps en temps, oui. Oui, oui.
Au cinquième?
Oh, peut-être un peu avant d'habitude.
C'est une race qui n'existe plus, parce qu'elles ne veulent plus travailler dans les choses de ménage.
Alors, madame est bonne, madame est belle, madame est douce.
Elles veulent faire travailler avec leur cerveau, se distinguer, prendre le dessus de toutes les classes, et qu'alors le balayage, ça ne les intéresse pas.
Mais nous ne sommes pas des ingrates. Et tous les soirs, dans notre mansarde, comme l'a bien ordonné madame, nous prions pour elle. Jamais nous n'élevons la voix devant elle, et nous n'osons même pas nous tutoyer. Ainsi, madame nous tue avec sa bonté, avec sa douceur, madame nous empoisonne.
Maintenant, on dit employé de maison, mais avant, on disait pas employé de maison, on disait des bonnes, hein, si on était bonnes. Des bonnes qui commençaient très tôt et qui finissaient très tard.
Car madame est bonne, madame est belle, madame est douce. Elle nous permet un bain chaque dimanche et dans sa baignoire. Elle nous tend quelquefois une dragée. Elle nous comble de fleurs fanées. Madame prépare nos tisanes. Madame nous parle de monsieur à nous en rendre jaloux. Car madame est bonne, madame est belle, madame est douce.
Oh, mais vous savez, on finit par se blinder, hein. Faut pas non plus. On est bien obligé. C'est très dur au début. Moi, je sais qu'au début, j'ai beaucoup pleuré parce que ma mère avait été employée de maison elle-même. Alors, elle m'avait dit, oh, tu vas voir, tu vas pleurer plus d'une fois. Bien sûr, j'ai jamais pleuré devant elle.
Je ne voulais plus faire employée de maison. Je trouve que c'est un travail inutile. De toute façon, ça ne peut pas être un métier pour qui que ce soit. Parce qu'au fond, l'employée de maison est quand même quelqu'un comme une autre personne. Elle est née avec les mêmes droits que sa patronne. Et pourtant, elle est regardée dans la société comme un être absolument inférieur, c'est quelque chose d'épouvantable.
Lasciatemi insegnare la creanza quelle birbe.
Ma in presenza del padrone.
Oh, dunque, perché io son serva, o da esser sopraffatta, o da esser maltrattata, no, signore. E voglio essere rispettata, voglio essere riverita, come fosse padrona, arcipadrona.
Alors, domestique, de la maison, de la famille, familier. Ah oui. Oui, alors voyez, toutes ces choses-là, moi je les ai beaucoup ressenties. J'ai jamais voulu rester très longtemps dans une même place parce que je ne voulais pas être de la famille. Dérivé de maison, vous voyez, c'est marrant. Hein. Apprivoiser, cultiver, on finit par être pareil que les gens pour lesquels on travaille. On est apprivoisé.
D'abord employé comme adjectif dans l'expression serviteur, domestique de la maison, le mot avait, dans l'usage ancien et classique, un champ d'emploi plus large que de nos jours, qualifiant aussi un végétal, une chose de la maison, ou concernant la vie privée d'un pays, d'un peuple.
Oui, vous voyez, une chose de la maison. Vous voyez, on fait bien dans le décor. On avait notre petit tablier blanc, là, et notre robe noire. On faisait bien dans le décor.
Vous le montez combien de fois par jour, l'escalier, Suzanne?
Oh, le moins possible. Bon, deux ou trois fois, quand même.
fait longtemps que la peinture n'a pas été faite, là, hein, dans la cage d'escalier.
Oh, oui, oui. Non, mais c'est vieux comme tout, oui. Moi, je ne peux pas vous dire depuis quand, parce que je ne suis là que depuis 25 ans. Alors, ça, c'est les WC. Et à la turque, je déteste ça. On n'a que ça. Alors, moi, j'habite par là.
À droite?
La chambre 27, là. Regardez, tout ça, c'est des chambres de service. Là, je n'ai pas fermé ça. Je vais fermer là-haut. Voilà, mon palais. Ça fait une chambre qui est la cuisine, la salle de bain, la salle à manger et la chambre à coucher.
Vous êtes dans combien, 10 mètres carrés?
Oui, au moins, oui.
Suzanne, votre salle de bain, c'est un tout petit lavabo?
Avec de l'eau froide, c'est tout. Ce qui manque ici, c'est une douche collective. Il y en aurait une. Hein. Ça serait formidable, mais il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. Comme il n'y a jamais eu d'ascenseur, ils auraient pu mettre un ascenseur aussi dans l'escalier de service, il n'y en a jamais eu. Mais j'ai une grande bassine dans laquelle je me mets là et puis je mouille toute ma moquette. Enfin, ça. Hein. Parce qu'on nous a imposé de la moquette pour ne pas troubler les gens qui sont en dessous.
Un petit but à gaz? Pas de feu?
Non, c'est tout. Je n'ai que du camping gaz, qu'on appelle ça. Et un petit réchaud électrique. Ah, vous pouvez vous asseoir sur le lit.
Celle-là, elle est moche comme tout. Depuis le XVIe siècle, domestique est substantivé, désignant d'abord le familier, l'ami intime, en 1520, et la personne attachée à la maison de quelqu'un dans des fonctions importantes, intendant. L'usage moderne en a restreint l'emploi aux serviteurs employés pour le service. L'entretien de la maison. Dans cet emploi même, le mot a disparu de tout usage officiel au bénéfice d'employés de maison. Qu'est-ce que c'est que la condition des employés de maison? Petit Robert, condition. Nom féminin. Emprunté au XIIe siècle, au latin, conditio. Celui-ci est composé de cum, c'est-à-dire avec, et de dicio, formule de commandement, d'où autorité, terme juridique appartenant à une large famille de mots.
Comme quoi, hein, j'avais bien ressenti ce qui était vrai. Hein. Je ne suis pas le petit Robert pourtant, mais voyez.
Suzanne Asquet, vous êtes bretonne?
Oui, je suis bretonne, oui. Ma mère portait la coiffe, la fameuse coiffe en pain de sucre, là. Et elle mettait tous les matins, elle mettait entre 20 et 25 minutes à mettre ça sur sa tête. Et je me rappelle que je lui disais, ah ben dis donc, si tu crois qu'un jour je mettrai ça sur ma tête, tu peux toujours... Elle me dit, bah, tu sais, tu feras ce que tu voudras, hein, ça te regarde. Et mes parents étaient très pauvres. Et ma mère, elle faisait quelque chose qui était très traditionnel en Bretagne pour gagner leur vie, mais qui maintenant est perdu complètement. Elle fabriquait les colliers des chevaux. Maintenant, ils sont en cuir. Autrefois, ils étaient en jonc. Mais mon père, après, quand elle s'est mariée, mon père, il n'était tout bonnement qu'un simple journalier agricole, parce que lui aussi, il était d'une famille de 10 enfants. Et il était l'avant-dernier. Et ma grand-mère, Madame Asquet, elle s'appelait Suzanne, c'est pour ça qu'on m'a appelée Suzanne. Elle est morte en mettant au monde son dernier enfant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mon grand-père, il s'est remarié, parce qu'il avait tellement d'enfants, et il s'est remarié avec une femme qui en avait 6. Alors là, ça a été... Mon père n'a jamais été à l'école. Lui, il était de la génération après, hein, la génération d'après, mais il n'a jamais été à l'école. Parce que dans cette condition-là, il n'a pas été à l'école, mais il n'a jamais parlé le français. Mon père est mort en 52, il n'avait jamais prononcé un mot de français.
Ça veut dire que vous parlez
breton ? Moi, je parlais, bien sûr, comment, maman nous a appris les deux. Hein. On avait 3 ou 4 ans, on parlait les deux langues simultanément quand on nous questionnait et tout ça. Puis après, quand mes parents sont morts, ma mère est morte en 40, j'avais 14 ans. Mon père est mort 2 ans après, en 42, donc je me suis retrouvée rapidement toute seule, sans personne. Et à ce moment-là, j'ai eu de la chance, mais ça, je dois le dire, j'ai eu de la chance, telle que j'étais à ce moment-là, de rencontrer la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Et j'avoue, encore aujourd'hui, presque 72 ans, ça a été ma seule école de vie. Voir, juger, agir. Hein. J'ai appris comme ça, toute seule, que j'étais perdue, j'aurais pu virer n'importe comment. Et ben, j'ai appris à voir, juger, agir et à m'engager toujours pour justement que les choses changent. Et c'est là que j'ai appris justement que j'étais de la classe ouvrière. Comment on appelle la conscience de classe, c'est là que je l'ai acquise. La conscience que j'appartenais au milieu ouvrier, que je devais donc lutter, que j'avais des droits, que j'avais une dignité, et que je devais la communiquer aux autres jeunes hein, qui vivaient la même condition que moi, et les aider à faire face à toute leur réalité, à ne pas se laisser exploiter, tout ça. Voilà, c'est pour moi la joie que ça a été ça. Et après, ça a motivé toute ma vie. Mais après, pour mon engagement syndical, quand j'étais adulte, c'est toujours ça qui m'a motivée.
Suzanne, pourquoi et comment êtes-vous devenue employée de maison ?
Ah, ben ça je suis devenue employée de maison parce que j'étais destinée à devenir employée de maison. Compte tenu que j'étais une enfant de prolétaire, hein, et comme je n'étais pas tellement motivée pour apprendre, eh ben, j'ai préféré quitter l'école et je suis rentrée à travailler à l'usine à ce moment-là, dans l'usine de conserve. Hein. Donc, en 1939, je ne suis pas retournée à l'école. Et j'ai le niveau du CM2.
Vous savez lire ?
Oh là là, je sais. De toute manière,
j'ai calculé.
Honnêtement, je n'ai que le niveau du CM2, mais en moi-même, je me suis acquis autre chose que le CM2, quand même. En vivant ce que j'ai vécu, ce que je fais, tout ça, c'est...
Hein. Vous êtes formée toute seule, vous êtes autodidacte.
Voilà, voilà. Et après, c'est moi, de moi-même, qui suis rentrée chez les bourgeois comme employée de maison. Parce que je trouvais que ça correspondait mieux à ce que j'étais condamnée à faire.
Quelle a été votre première place ?
Ah oui, à Rennes, ça a été. C'était pas une trop mauvaise place. C'était pendant la guerre. Et le patron, je ne l'ai jamais vu, parce que c'était un médecin, mais il était dans la résistance. Mais là, j'ai connu une fille, une des filles, l'aînée des filles, qui était sourde et muette, mais qui était extraordinaire, Colette. Elle avait 3 ou 4 ans de plus que moi, hein, puisque je vais avoir 19 ans à cette époque-là, elle avait 22 ans. Et on communiquait toutes les deux, mais on était vraiment, on communiquait comme des amis, pas comme la fille de la patronne et la boniche, quoi, comme on pourrait dire. J'ai vraiment gardé un souvenir extraordinaire de cette place à cause de ça.
Vous étiez bonne à tout faire ?
Oui, bonne à tout faire, comme on dit, oui. Oui. J'ai dit boniche tout à l'heure, hein, vous voyez. Alors, j'étais bonne à tout faire, et alors là, je les ai quittés, mais je suis restée à Rennes, je suis allée chez des gens très, 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 très sympathiques. Mais là, il y avait aussi beaucoup d'enfants. Partout où j'étais, il y avait des enfants. Et je vais vous faire un aveu, j'adorais les enfants. Mais les petits, les tout petits. Et quand je rentrais dans une place, ça m'est arrivé souvent de regarder si la patronne n'était pas enceinte. Et quand elle était enceinte, c'était un critère pour me faire rentrer dans la place. Alors vous voyez, c'était pas banal.
Jusqu'à quel âge vous aimez les enfants ?
Oh ben, 3-4 ans. Un enfant, dès qu'il a 4 ans, ça m'intéressait déjà moins. Ça m'intéressait déjà moins parce que quand il avait 4 ans, Il avait déjà pris conscience qui j'étais. Et comme les enfants qui sont un peu comme des perroquets qui répètent ce qu'ils entendent, eh ben des fois, ils disaient des choses qui ne me plaisaient pas.
Alors, j'adorais les enfants, mais il fallait pas qu'ils soient devenus trop arrogants ou trop... Ils avaient quelquefois des réflexions humiliantes. De dire, ben oui, toi t'es que la bonne. T'entends ça dans la bouche d'un petit garçon de 4 ans, ça fait drôle quand même. Mais j'ai eu quand même j'ai pas eu beaucoup de places où j'ai pas été bien, mais j'ai eu des places où j'ai gardé un très très mauvais souvenir. Très très mauvais souvenir. Et c'est assez drôle parce que c'est à Quimper. Je suis pas restée longtemps parce que d'abord c'était infernal. Je suis restée 4 mois. Parce que la patronne, elle avait une conception des choses, c'était incroyable. Comme je travaillais le dimanche, et puis que très souvent, quelquefois le dimanche, je profitais pour inviter les grands-mères ou les belles-sœurs et tout ça. Donc en plus, ils faisaient des repas. Et je me rappelle qu'une fois, cette bonne femme que je ne peux pas voir en peinture, et je ne me rappelle même plus son nom. Parce qu'en ce moment, je perds la mémoire. Et je vous jure que si je voulais vous le dire, je ne peux pas. Je ne me rappelle plus son nom. Mais je l'ai détestée. Elle est arrivée dans la cuisine, il était 2 heures, et j'étais en train de ranger, j'avais fait la vaisselle et tout ça, j'étais en train de ranger. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça, comment vous avez nettoyé cette poêle et puis ce truc. Je lui dis, madame, je vous ferai remarquer qu'aujourd'hui c'est dimanche, et que vous n'avez pas à me parler sur ce ton-là, et c'était tout le temps comme ça. Et en plus, il y avait un gamin de 7 ans, il venait à la cuisine et il me donnait des coups de pied. Autrement, j'ai eu des rapports normaux avec des gens, bon, qui savaient quand même, des patrons qui étaient quand même conscients qu'ils étaient les patrons et que moi j'étais la bonne, comme on dit, mais qui avaient des rapports humains, plutôt sympa, quoi, quand même, plutôt sympa.
De domestiques sont dérivés domestiquement, mot peu usité, domestiqué.
Oui, domestiqué, oui.
Celui-ci qui s'emploie pour rendre un animal, une espèce animale, domestique, et au figuré, assujettir, maîtriser,
voilà,
à entraîner maîtriser, à son tour.
C'est un grand mot, maîtriser.
Vous êtes allergique?
Moi, je ruais plutôt dans les brancards.
Ce sont des rapports de pouvoir.
Oui, des rapports de pouvoir, des rapports de force aussi. Parce que quand on est longtemps dans une maison, on finit par devenir un peu quelqu'un d'important, quoi. On a son rôle. Quelquefois, on dépasse aussi un peu ses prérogatives. On arrive à... Moi, là où je suis restée 18 ans, je pense que je suis restée 18 ans parce que... Mon employeur était un célibataire et il vivait avec sa mère. J'avais le pouvoir, puisqu'il n'y avait pas de femme, donc automatiquement c'était moi qui faisais marcher la maison. J'avais le pouvoir. Il était très très gentil, très compréhensif, donc on s'entendait très bien. On arrivait à parler même, on allait assez loin dans les discussions. On n'était pas du même avis, bien sûr, parce qu'on n'était pas du même côté de la barrière, comme je disais souvent. Je lui disais, oh, vaut mieux qu'on s'arrête, parce qu'on va se fâcher, on n'est pas du même côté de la barrière. Mais je pense que le fait qu'il n'y ait pas vraiment de femmes dans la maison, ça a permis que je reste plus longtemps, je pense.
Patron-patronne, définition du Robert, empruntée sous la forme patronne, 1250, au latin classique patronus, patron, par opposition à client, protecteur des plébéiens, protecteur. Au figuré défenseur, protecteur, appui, ancien maître d'un affranchi, puis en latin médiéval, saint protecteur. Patronus est dérivé de pater, père. Ouais. Le mot désigne d'abord le saint, sous l'invocation duquel est placée une église, une ville, un métier. Il désigne aussi un protecteur. C'est très positif tout ça.
Positif, oui. Enfin, non. Ça dépend comment on se place. Moi, je me suis toujours mieux entendue avec les hommes qu'avec les femmes. Oui, c'est vrai. Moi, quand je disais quelque chose aux enfants, c'était toujours pour que les enfants le répètent. C'était des choses qui... C'était comme ça que je faisais marcher le... Mais non, faut être... Faut pas avoir l'air de rien, mais faut... Madame me faisait toute une histoire pour le ménage. Elle me mettait des choses derrière les WC ou quoi pour voir si j'avais fait le ménage ou tout. Quand je retrouvais ça, ça me faisait pas très plaisir. Alors je disais aux enfants, je disais quand même, vous exagérez de mettre des choses, des saletés comme ça derrière le water. Alors que je savais très bien que c'était pas eux qui l'avaient fait. Et ben, les parents, certainement que les enfants allaient le répéter à la mère, je pense, tout au moins. Oui, il faut avoir un peu de nez, quoi.
C'est-à-dire toutes les relations étaient comme ça, labyrinthiques?
Ah, ben bien sûr. Bien sûr. Mais il faut être... Si ça marche pas comme ça, c'est qu'on est naïf. Il y a des gens qui sont naïfs. Moi, j'ai jamais été naïve.
C'est pas un peu malsain?
Bon, ben si, ça a dû me dévier un peu mon caractère. Enfin, j'aurais peut-être pas été comme ça si j'avais pas fait ce métier-là, ça se peut. C'est vraiment un métier où il faut savoir être... discrète, être pas parler beaucoup. Faut être peut-être un peu hypocrite. Un peu hypocrite, oui. Ça rend hypocrite. On est obligé.
Chère sœur, je viens de quitter les B, je suis chez F. Tout cela n'a pas été facile. Tu sais que l'année dernière, j'avais passé 3 mois à l'hôpital et 2 autres en maison de repos. Le mois d'octobre arrivé, j'ai pensé que j'avais suffisamment de force pour me remettre au travail. J'ai vite déchanté. Le plus dur, c'est qu'ils n'ont pas cru que je ne pouvais plus travailler et que je voulais rentrer chez moi définitivement. Ils ont pensé que je les quittais pour aller travailler ailleurs. Ils n'ont pas accepté cela et ils me l'ont fait sentir. Ils m'ont payé juste ce qu'ils me devaient selon la loi. Pas plus, pas moins. Lorsque je regarde mes années de service, les enfants que j'ai élevés pratiquement seuls, les heures que j'ai données à cette famille parce que je l'aimais comme si c'était la mienne, le nombre de fois que je me suis refusée à critiquer les patronnes parce que la mienne était bonne et gentille avec moi. Maintenant, je vois qu'elle a été gentille tant que j'ai eu des forces pour la servir. Cela a été donnant, donnant. Je me refuse à me laisser aller à la révolte, mais je sens au fond de moi-même une douleur immense. Tant pis, c'est sans rancune que je t'écris tout cela. Ils continueront à avoir en moi une amie, car finalement je n'ai pas servi pour qu'on m'en sache gré. Je t'embrasse très fort.
Suzanne Asquette, vous viviez dans la maison de vos maîtres. J'imagine que vous aviez une chambre de bonne dans la maison.
Ah oui, oui. Parce que là, on vivait presque 24 heures sur 24, parce que quand on montait, quelquefois, il était 10 heures quand on partait. Quand on arrivait à 7 heures du matin, vous vous rendez compte, ça faisait... Finalement, on était dépendants. Hein. On était la domestique, quoi, au service complet de l'employeur. Je faisais tout, garde d'enfants, cuisinière, femme de chambre, femme de ménage, en fait tout, quoi, faisais tout. À cette époque-là, surtout, on faisait tout. C'est pour ça aussi que j'ai absolument voulu organiser la profession, parce que compte tenu de ce que j'ai vécu, il fallait bien qu'on essaye de voir si on ne pouvait pas apporter des réponses à des choses, à des conditions de vie ou de travail qui étaient vraiment insensées. On commençait à 7 heures du matin. Jamais on ne finissait avant 21h. Et quand il y avait du monde, des fois, on restait beaucoup plus tard. Et on travaillait le dimanche matin. On n'avait que le dimanche après-midi jusqu'au lundi matin. Donc c'était insensé. Parce qu'on ne pouvait pas avoir de vie du tout personnelle ni rien. D'abord, on était tellement fatigués que quand on était arrêté, on pensait qu'à se coucher pour dormir ou parce qu'on était trop crevés. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, c'est pas possible. Il faut qu'on arrive à changer quelque chose dans ce moyen de subsistance qui est le fait d'être en pleine maison. Moi, j'appelais toujours en pleine maison parce que j'ai toujours essayé, au contraire, de ne plus dire bonne. Et de ne plus dire bonichelage. Ça m'a échappé tout à l'heure parce que moi, vous posez des questions. Mais on disait que employé de maison. Et maintenant, c'est fini par entrer dans les mœurs puisque la convention collective, c'est la convention collective des employés de maison. En plus, le travail se déroule à huis clos, comme on dit. Hein. Donc là, c'était sûr qu'on ne pouvait pas exprimer comme dans une entreprise où on a un délégué qui va dire pour vous ce qui ne va pas et tout ça. Là, c'était très particulier. Maintenant, c'est changé. Donc les rapports ne doivent plus être les mêmes. Mais à ce moment-là, les rapports étaient vraiment de dominé à dominant. Hein.
C'est un vrai métier.
Si vous voulez, dans le sens de la considération qu'on en a pour les employés de maison, ce n'est pas un vrai métier. Hein, dans l'esprit des gens, ce n'est pas un vrai métier. Mais finalement, dans les compétences qu'on exige, ça devrait être un vrai métier, du moins.
Qu'est-ce qu'on a exigé comme compétence de vous ?
Le ménage. Ah, le ménage est même très, 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 très exigeant. Hein. Le ménage... y compris le soin des meubles. Alors, par contre, j'aimais beaucoup faire la cuisine, j'aimais beaucoup faire la pâtisserie, mais j'adorais m'occuper des meubles. À sort, là, les meubles, ça a été une de mes passions. Ça a été une de mes passions, parce que c'était de très beaux meubles, et puis que si on ne les entretient pas bien, eh bien, ils perdent de leur valeur. Et je me suis disputée avec des patronnes parce que je passais trop de temps à m'occuper de leurs meubles. Et ça, c'est à ma dernière place. Dans ma dernière place, c'était pareil. C'était là dans la rue du Colonel Bonnet, là, à la Muette. Là. Et elle m'emmerdait tout le temps parce que je faisais que quelques heures. Hein. Je n'étais pas employée de maison, là. J'étais que femme de ménage. Mais j'allais tous les jours quand même. Tous les jours, je faisais 3 ou 4 heures. Et alors, elle était tout le temps en train de me dire « Ah, pourquoi vous ne faites pas ça ? Vous faites toujours ça, vous passez tout votre temps à « Vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. » Et puis, quand ils sont partis, ils sont allés habiter à Monaco, sur le Rocher, ils ont acquis une belle, très belle maison là-bas. Ils ont vendu leur appartement de Paris et ils ont vendu leurs meubles. Et là, on a eu droit au défilé de tous les... Comment ça s'appelle ? Les antiquaires. Oui, les antiquaires et qu'il y a encore d'autres. Les
brocanteurs.
Les brocanteurs, tous. Tous, ils sont venus pour évaluer les meubles, pour évaluer tout. Et devant moi... Il disait à la patronne, je ne sais pas qui entretient ces meubles, mais c'est une pure merveille. Et quand elle est partie, elle m'a dit, je peux vous faire des excuses. Elle dit, parce que qu'est-ce que je vous ai emmerdé avec ça en plus qu'elle m'a dit. Et ça, c'est vrai, j'ai adoré ça. Et ça, je considère que c'est une compétence. Qu'on exige d'une femme de ménage ou d'une employée de maison.
Et comment vous les entreteniez, ces meubles ?
Oh,
c'était compliqué ?
Hein, mais tout, je faisais tout. D'abord, je les époustais, et puis pas avec n'importe quel chiffon. J'avais des choix de chiffon, mais j'étais très maniaque.
Quel choix de chiffon ?
Ben, choix de chiffon, où c'était... ça pouvait être des chiffons, par exemple, une vieille chemise de nuit en molletonné et tout ça. Vous savez, qu'on avait jeté, je coupais des morceaux et tout ça. Bon, ben, je savais que pour certains meubles, il fallait le mettre pas du côté molletonné, mais de l'autre côté... Hein, pour frotter tout ça, mais en plus je les cirais, je les brossais, je les entretenais, et pour chaque catégorie de meubles, j'avais une manière de faire, parce que je savais qu'il fallait faire attention pour pas abîmer les dorures, pour pas même enlever le cuivre en faisant brutalement ou des choses comme ça. Ça demande une technique. Hein.
Et l'argenterie ?
Ah, j'adorais faire l'argenterie. Contrairement à la plupart des copines que j'avais, Oui, c'est une phobie, l'argenterie et les cuivres. Eh bien, moi, j'adorais faire ça. Parce que à partir de quand vous aimez, vous faites des cuivres, même des cuivres, hein, vous vous salissez les mains, c'est dégueulasse et tout ça. Mais quand vous avez fait ça, vous voyez la différence avec avant. Hein, vous dites, mais c'est magnifique, qu'est-ce qu'ils sont beaux comme ça. Et l'argenterie, c'était pareil. J'adorais faire l'argenterie, tout ce qui brille, quoi. C'était très superficiel, finalement. Mais le repassage, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes parce que c'est pas que je déteste le repassage, mais je n'étais pas assez rapide. Je suis quelqu'un qui n'aime pas faire les choses vite. Hein, je n'aime pas, parce que si je fais vite, je bâcle et tout ça, et je n'aime pas ça. Mais c'est vrai que je dois reconnaître que je n'ai jamais acquis... parce que je connaissais beaucoup d'autres copines employées de maison qui étaient très très bonnes repasseuses et qui avaient la dextérité et la rapidité.
Hein. C'est un art.
Et ça, moi, je ne l'ai jamais eu. Ça, je dois reconnaître. Hein. Je ne l'ai jamais eu. Et ça m'a posé des problèmes avec les patronnes. Hein. Parce que il y avait les Espagnols, par exemple, sont formidables dans le repassage. Oh là là, oui. Les Espagnols et les Portugaises. Mais moi, un pauvre bretonne, Bécassine, qui était montée à Paris avec son parapluie et son panier à la gare Montparnasse, et on ne peut pas exiger ça.
Dans les maisons dans lesquelles vous avez travaillé, il y avait d'autres domestiques?
Oui, mais j'ai pas été... J'en ai eu, hein, j'en ai connu. Mais tout ça, c'est des mauvais souvenirs. Alors, c'est bizarre. Tout ça, ça s'est envolé. Et c'était encore à Quimper, décidément. Quimper, il y avait quelque chose, hein. C'était à Quimper et c'était dans un milieu tout à fait différent. Ce n'était pas un milieu bourgeois. C'était dans un café-bar tabac. J'étais cuisinière, là. Hein, vous voyez, comme quoi j'ai été cuisinière. Je me suis payé le culot de venir cuisinière sans avoir jamais suivi aucun cours, ni avoir eu aucun diplôme de rien. Mais comme j'ai tellement fait de cuisine pour les patrons, que je faisais n'importe quoi et tout, et puis même j'en inventais, finalement, je me suis dit, ben dis donc, ben maintenant je suis devenue une sacrée cuisinière et une sacrée pâtissière. Et à ce moment-là, je me suis permis de me placer en disant, je suis cuisinière. Et effectivement, j'ai pu le prouver que je pouvais être cuisinière, parce que dans la plupart des certificats de travail qui m'avaient été remis, à ce moment-là, le certificat de travail, maintenant le certificat de travail, on ne doit plus rien dire dedans. On doit juste dire, elle est rentrée à telle date, elle a exercé telle fonction, de telle date à telle date, fait à Paris le, on ne doit pas faire de commentaires. Ça, c'est le code du travail maintenant. Mais à cette époque-là, ils pouvaient faire des commentaires. Et dans tous mes certificats de travail, c'était pas toujours mis, nous avons été très, très satisfaits de ces trucs. Non, c'était toujours mis, c'est une excellente cuisinière. Alors, parce que j'étais une excellente cuisinière, je me suis dit, je vais devenir cuisinière. Et là, j'étais cuisinière et c'est vrai qu'il fallait faire beaucoup de cuisine et que vraiment, réellement, je passais tout mon temps à faire la cuisine, à faire le marché, parce que j'avais responsabilité de tout quand même. Et le patron était complètement cinglé, hein, et la patronne, elle était très insignifiante. Hein. Mais là, il y avait d'autres personnels, il y avait donc la garde d'enfants et il y avait la femme de chambre. Hein. Eh bien, j'ai détesté les rapports qu'on a pu voir avoir entre nous, parce que chacun restait convaincu que c'était lui le meilleur. Et puis qu'il avait plus d'importance, parce que c'était, il avait la responsabilité des enfants, l'autre c'était parce qu'elle était femme de chambre, qu'elle servait les repas et qu'elle faisait tout. Et finalement, moi qui étais la cuisinière, c'était, j'ai pas gardé du tout un beau souvenir, hein, du tout.
Qu'est-ce que c'est qu'une bonne patronne pour vous, Suzanne?
C'est difficile à définir, hein. Très difficile à définir. Finalement, il faut qu'elle ait beaucoup de qualités. Hein. Oui, on est exigeant aussi, finalement, vis-à-vis hein, de la conception qu'on a d'une bonne patronne. Il hein. faut déjà qu'elle soit très simple, qu'elle soit très, très attentive, très ouverte, comme on dit, qu'elle soit proche quand même, qu'elle ne soit pas qu'elle n'ait pas une conscience affirmée de sa supériorité. Hein. Qu'elle ait conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on apporte quand même dans l'intérieur, hein, par notre présence, par le travail qu'on fait, et qu'elle nous apprécie en tant que personne aussi, quoi. Donc c'est un rôle très difficile à tenir, hein. Le rôle d'une bonne patronne d'employé de maison, c'est très très difficile. Tout le monde ne peut pas y répondre, hein. C'est normal.
Madame, je vous téléphone parce que je suis à la recherche d'une jeune fille qui serait chez moi depuis 8h le matin jusqu'à 6h le soir. Est-ce que c'est possible
à trouver ? C'est pour où, madame ?
C'est pour la rue de Grenelle.
Oui, et il y a des enfants ?
Il y a deux petits-enfants et il faudrait quelqu'un qui puisse répondre au téléphone.
Parce que vous êtes docteur, avocat ?
Oui, c'est ça.
Ah oui. Mais c'est à demeure ou...
Non, pas couché.
Pas couché.
Est-ce que vous croyez qu'on peut trouver encore des Françaises ?
Oh, madame, pas beaucoup. Écoutez, ce que je peux savoir, c'est un métier qui se perd. Elle ne veut plus être bonne.
Ah oui ? Même les étrangères ?
Les étrangères, d'abord, on ne les laisse pas beaucoup. On ne donne plus beaucoup de cartes parce qu'il y a du chômage. Elles sont au chômage, les Françaises, et elles s'en fichent, elles font la bombe avec.
Comment ?
Elles font la bombe avec.
Avec le chômage ?
Bien sûr.
Ah oui ?
Alors, elles ont des copains et puis alors, elles ne veulent plus être bonnes. C'est compromettant.
Même les étrangères ?
Même les étrangères. Ah, oui. Alors, madame, qu'est-ce que...
Bah, écoutez, je vais vous retéléphoner.
Oui, parce que...
Oui, parce que je vais voir.
Oui, entendu.
Merci beaucoup, madame.
Je vous en prie. Au revoir, madame.
Qu'est-ce qu'une bonne employée de maison ?
Une bonne employée de maison, c'est une personne... qui connaît bien son métier, c'est-à-dire qui sait tenir une maison.
C'est un métier.
Alors c'est justement le problème que l'on retrouve en ce moment, c'est que les personnes qui ne sont pas du tout de métier, mais qui n'ont pas de travail, veulent faire employé de maison. Ben, c'est pas ça du tout, parce que ça, être employé de maison, il faut avoir une bonne éducation, il faut savoir s'organiser, il faut savoir faire tout ce qu'il y a à faire dans une maison, la cuisine, le ménage, le repassage, et puis il faut avoir des personnes sérieuses, honnêtes, ça demande beaucoup de qualité. C'est pas du bricolage, c'est pas le coup de plumeau comme ça, et puis voyez, il faut que la maison soit bien tenue, il faut qu'elle ait de la jugeote, qu'on soit pas obligé de lui dire écoutez, il manque du beurre ou il manque du pain, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui gère tout à fait.
Il n'y a pas de formation.
Et voilà le problème. Il n'y a aucune formation. Alors, ce que l'on appelle maintenant le CAP de collectivité, ce sont des jeunes filles qui savent donner un coup de balai et plier un torchon, voyez-vous. Et ce n'est pas du tout ça, parce que les personnes qui vont prendre une employée de maison, c'est les personnes qui demandent une certaine cuisine, un certain service, une certaine disponibilité. Et il n'y a absolument, chez nous, aucune formation. Vous l'avez en Suisse, vous l'avez en Autriche, vous l'avez en Angleterre, vous ne l'avez pas en France. Alors, tout ce que l'on peut faire, c'est placer des jeunes en tant que jeune fille au pair. Et quand elles ont fait un an comme jeune fille au pair, on peut espérer, voyez-vous, en faire des petites employées de maison. Mais enfin, non, il n'y a vraiment aucune formation.
On apprend sur le tas ?
On apprend sur le tas.
On est un bon employé de maison parce qu'on a un bon patron ?
Ça aussi. Vous avez des personnes qui savent s'en servir et des personnes qui ne sauront jamais s'en servir.
Attendez, moi je suis là depuis 1932. Oh, ça a changé depuis... Mettons, depuis 1960, par là, depuis 58-60. Oui, ça a commencé à changer.
Oui, ça a commencé.
D'abord, elles sont devenues moins respectueuses envers leurs employeurs. Elles sont gagnées par un vent de révolte. Elles connaissent admirablement leurs droits. Leurs devoirs, on n'en parle jamais, mais leurs droits, ça, vraiment, elles connaissent très bien. Allô ? Qui est un pareil ? Mais laquelle, Maria ? Ah, Maria, comment allez-vous ? Oui ? Oui ? Ah, ça, l'hôtel, mon petit, moi, je ne connais pas. pauvre Maria. Eh bien, écoutez, il faut venir me voir. Oui, mais écoutez, Maria, moi, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas les statuts de l'hôtel. Alors, venez me voir, je vous dirai ce que j'ai. Hein? Entendu. Au revoir, mon petit. C'est des séquelles du siècle dernier, ça. On les a maltraités, on les traitait de boniches, c'était déprécié, c'est resté. Alors maintenant, on essaie de les employer, on les appelle employés de maison, on essaie de les revaloriser, mais c'est enraciné.
Veuillez venir feuilleter avec moi cet album. Voici madame. Voici monsieur. Voici monsieur Corniche et madame Corniche, qui sont des amis de monsieur et de madame. Et me voici moi-même.
Serviteur non masculin, 14e siècle. Dérivé de servitum, le mot a désigné 1050, celui qui est dévoué à Dieu, à la religion, d'où à l'époque classique serviteur de Dieu, chrétien fidèle. Il s'est dit pour domestique, cet emploi générique par rapport à valet. Enfin, le mot a désigné un ouvrier loué à l'année. Serviteur de l'État, milieu du 18e, équivalent de chevalier servant, serviteur, oui, dans le vocabulaire galant, avoir du dévouement. C'est important, ça, le dévouement ?
Ah, ben bien sûr. Pour les employeurs, c'est très important. On doit s'oublier complètement pour ne penser qu'à leur petit plaisir personnel.
Vous n'avez pas beaucoup aimé les employeurs, vous, hein ?
J'ai beaucoup de mal à l'association où je vais. Quand j'ai un employeur qui téléphone, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à l'écouter. C'est devenu une espèce de... pas un rejet, si on veut, mais je suis très dure avec eux, vous voyez. Je ne leur pardonne rien. C'est ennuyeux, même, parce que je manque beaucoup de compréhension, quoi. Je sais pas, c'est plus fort que moi.
Vous leur en voulez ?
Oui, je pense que je leur en veux, oui. Oui.
Vous avez été malheureuse ? Ils vous ont maltraité ?
Non, pas plus que d'autres, mais c'est parce que je suis trop orgueilleuse, probablement, je sais pas. J'étais peut-être pas faite pour ça, j'aurais peut-être dû faire autre chose. J'ai essayé plusieurs fois de m'en sortir, puis jamais pu. J'aurais aimé m'occuper plutôt du linge, faire un peu lingère, quoi. Je suis jamais arrivée. J'ai rentré dans deux places, mais ça n'a jamais marché.
Pourquoi ?
Je sais pas. Parce que peut-être que j'étais faite pour travailler un peu toute seule. Parce que quand on est employé de maison, on est très isolé, on travaille seul. On n'a pas de collègues. Peut-être que j'avais des difficultés à m'entendre avec les collègues.
Suzanne, qu'est-ce que vous auriez aimé faire comme métier, si vous aviez eu le choix ?
J'avoue, j'y ai jamais songé. J'ai jamais songé. Je crois pas, non, non.
Il n'y a aucun métier qui vous ait fait rêver ?
Non, absolument pas. Non, parce que... parce qu'il y a des métiers, systématiquement, je devais penser que ce ne pouvait pas être de mon ressort.
Finalement, vous l'avez aimé, ce métier ?
Oui, dans l'ensemble, oui. Dans l'ensemble, j'ai aimé, oui. Et puis finalement, j'ai aimé aussi faire le ménage, parce que j'aimais bien que les choses soient propres, soient... pour la famille au service de qui j'étais, que ce soit agréable de vivre. Donc finalement, ce que j'aimais pas de moi-même, c'est-à-dire faire le ménage, je détestais ça avant que j'ai commencé à le faire, hein, et ben finalement, j'ai compris que ça faisait partie aussi des choses qui pouvaient être importantes pour créer de l'harmonie, hein, et pour permettre à des gens de vivre dans une ambiance et dans un milieu agréable et tout ça.
Suzanne Asquette, vous parlez de Bécassine.
Oui.
Il y a eu beaucoup de Bretonnes comme ça qui sont montées à Paris pour être employées de maison.
Oui, beaucoup. Mais maintenant, je crois que ça ne se fait plus. Que maintenant, nous étions les immigrés de l'intérieur. Et puis bon, bah, maintenant, il y a les immigrés de l'extérieur. Hein, dont les Espagnols, les premières, ça a été les Italiennes, après les Espagnols et les Portugaises. Puis maintenant, il y a aussi les Capverdiennes et...
Les Philippines.
Les Philippines.
Suzanne, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas restée dans la même famille? Vous auriez pu, non? Trouver une bonne place avec des bons patrons qui vous respectent?
Moi, je pense que pour moi, ça n'aurait pas été possible. Je n'étais pas en fait de maison pour faire partie de la famille, comme c'était dans la mentalité, c'était souvent ça. On faisait partie de la famille comme on fait partie des meubles. Hein. Et moi, ce n'était pas ma conception. Donc, le plus longtemps que je suis restée, c'est 4 ans, 4 ou 5 ans que je suis restée.
Vous avez toujours été syndicaliste?
Oui, 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 depuis l'âge de 19 ans, quoi. Oui. Oui, ça a été, finalement, ça a été ma motivation de toute ma vie, quoi. Ouais.
Jean de Maison, aujourd'hui, la condition de bonne à tout faire, vue par Suzanne Asquette, 72 ans, bretonne d'origine, avec Michel Lebescon commentant le Robert historique de la langue française, extrait de l'ACR, l'atelier de création radiophonique, Maria, quelle Maria, pauvre Maria, du 1er mai 1977, réalisé par Janine Antoine et Annie Laurent, extrait du film Désiré de Sacha Guitry, prise de son Patrice Klein, Laurent Groux, mixage Monique Burguière, Christian Keller, réalisation Christine Robert, une émission de Marion Thibault.
Ah, j'ai oublié ça. Je n'ai jamais accepté, de parler à la troisième personne. Jamais.